Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés. Jean-François Aquili.
Bonsoir à la une, l'interview attendue hein, d'Emmanuel Macron dans la presse quotidienne régionale avant un remaniement annoncé comme imminent et les Français qui demandent au chef de l'État un tournant écologique et social selon notre enquête Odoxa Dentsu Consulting. C'est dans notre édition Désinformés, placée ce soir sous le signe des rencontres économiques d'Aix-en-Seine avec le Cercle des économistes et France Info qui auront lieu demain et tout le week-end à Radio France sur le thème Agir face au dérèglement du monde, à vivre sur franceinfo.fr. Désinformés avec Françoise Benhamou, professeure à l'Université Paris 13 et membre du Cercle des économistes. Avec Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, la Fondation pour l'innovation politique et professeur à Sciences Po. Avec Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes cofondatrice du blog Nos Lendemains. Et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Bonsoir à tous les quatre et bienvenue. Emmanuel Macron a donc accordé une interview à la presse quotidienne régionale avant de recevoir en fin d'après-midi les présidents des trois assemblées, Sénat, Assemblée nationale, Conseil économique et social et environnemental. Le président pourrait d'ailleurs s'exprimer ce dimanche soir. Information pour l'heure non confirmée au moment où je vous parle. Bonsoir à vous, Bruno Dive.
Bonsoir.
Bonsoir Bruno, éditorialiste à Sud-Ouest, président de l'association de la presse ministérielle. Vous êtes au moment du bouclage de votre journal. Merci de nous accorder quelques minutes. Bruno, vous avez participé à cette interview présidentielle à l'Élysée. Qu'est-ce que vous en retenez ce soir?
J'en retiens le fait que le président voulait surtout remettre en perspective politique plutôt qu'annoncer une véritable inflexion de cette politique avant d'annoncer son nouveau gouvernement. Il a beaucoup insisté sur le fait aussi que la crise économique et sociale allait être terrible à la rentrée. Et donc je crois qu'il faut d'une part préparer les esprits à cela et montrer que le gouvernement essaie d'y répondre, à la fois sur le plan européen, avec le plan de relance qui sera annoncé à la fin de l'été, et un certain nombre de mesures comme celles qu'on a déjà connues sur le chômage partiel, le tout dans un cadre de dialogue social. C'est-à-dire que je dirais qu'il insiste plutôt sur un changement de méthode qu'un changement de cap. Ouais. L'expression qui revient tout le temps, c'est le nouveau chemin.
Bon, changement de méthode. Est-ce que Bruno Dive, le chef de l'État, évoquait ces licenciements de masse, hein, cette situation catastrophique chez Airbus, Air France, le choc économique et social majeur que nous subissons? Est-ce qu'il l'a commenté?
Sur le téléphone.
Oui, vous êtes toujours là, Bruno Dive. Vous nous entendez, Bruno Dive?
Oui, je suis là.
Oui, est-ce que le chef de l'État, disais-je, a commenté le choc économique et social majeur que nous subissons aujourd'hui?
Oui, il a beaucoup insisté sur le fait que cette crise, on en est qu'à ses prémices, et qu'elle va avoir, que la rentrée, l'automne, l'hiver vont être très difficiles. Ça, il nous l'a beaucoup dit et redit, et que le rôle de l'État, c'était d'éviter au maximum les plans sociaux. Mmh. Par exemple, il nous a insisté pour dire que Airbus, le plan social d'Airbus, aurait été bien pire sans l'intervention de l'État. Ouais. Et que leur idée, c'est de faire du chômage partiel plutôt que de recourir à des, plutôt que d'avoir de passer par des suppressions d'emplois définitives.
Sur la séquence qui s'ouvre, très politique, hein, Bruno Dive, mais qui est éminemment liée à la situation, celle du remaniement et accessoirement du sort réservé au Premier ministre Édouard Philippe, il s'exprime là-dessus, Emmanuel Macron?
Très peu, bien sûr, on lui a posé la question, on a essayé de cuisiner un petit peu par tous les côtés, mais il n'a pas voulu, évidemment, il garde le secret, il n'a pas voulu dire quoi que ce soit, il y a juste un hommage assez net à Édouard Philippe, à la façon dont ils travaillent ensemble. Alors on peut considérer que, on peut lire ça dans les deux sens, hein, on peut dire que c'est un hommage posthume, si je puis dire, ou bien une incitation à continuer. Je dirais que moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il en parlait quand même au présent, oui, et non pas au passé composé. Donc on a plutôt l'impression qu'il était prêt, qu'il allait continuer avec lui, mais encore une fois, il y a aucune information. L'autre indication, c'est que dans tout ce qu'il nous a annoncé aujourd'hui, je vois pas ce qui pourrait empêcher Édouard Philippe de continuer avec lui, parce qu'il n'y a pas vraiment de quoi fâcher le Premier ministre ou justifier un changement de Premier ministre.
Sur les élections régionales, après tout, cela concerne nos premiers chefs, hein, nos territoires, nos régions. Oui, Bruno Dive, est-ce que ces élections sont reportées? Est-ce qu'il en a fait mention?
Alors, bien sûr, on a parlé. Je pense qu'il a renoncé visiblement à reporter les élections régionales, faute de consensus. Il nous a expliqué pourquoi il voulait le faire, mais c'est parce que si on fait une grande réforme territoriale, si on une réforme de la décentralisation, il faut du temps et qu'il ne peut pas la faire 6 mois avant les élections. Donc c'est pour ça que il avait avancé cette idée, mais garant des institutions, comme il se présente, il ne veut pas bousculer le calendrier électoral. Donc là, je pense que c'est une idée enterrée.
Merci en tous les cas. Merci à vous, Bruno Dive, hein, pour ces premiers éclairages extrêmement précieux. Parce que, Bruno, je crois que l'interview n'est pas encore tout à fait finalisée ou en ligne ou disponible.
Comment ça se passe? Il y a toujours une séance de relecture et on attend le texte définitif. Bon, il n'y a pas de gros changement à en attendre, mais c'est une interview assez longue et donc ça prend du temps.
En tous les cas, merci à vous, Bruno Dive. Hein, vous êtes, je le rappelle, éditorialiste à Sud-Ouest et vous présidez l'association de la presse ministérielle. Merci pour donc ces premiers éclairages sur cette interview apparaître demain dans les titres de la presse quotidienne régionale. Pour l'heure, il est 20h10 sur France Info. C'est le Fil Info avec Frédéric Bagnada.
Dernier épisode de la guerre des municipales à Marseille. La candidate de droite Martine Vassal se retire de la course au profit du républicain Guy Tessier. La droite espère ainsi conserver la cité phocéenne par le jeu des alliances. En attendant l'issue du scrutin à Marseille, un premier écologiste s'installe dans son fauteuil à Lyon. Bruno Bernard a été élu ce matin président de la métropole, la deuxième agglomération du pays avec un petit peu plus d'1 400 000 habitants. Airbus détaille son plan social, plus de 3 500 emplois pourraient être supprimés en France, près de 15 000 au total dans le monde. Une facture qui pourrait toutefois être allégée si les États européens apportent leur aide, déclare Guillaume Faury, le patron de l'avionneur européen. Malformation, autisme, trouble ORL, pour la première fois la responsabilité de l'État reconnue dans le scandale de la Dépakine, cet anti-épileptique à l'origine de malformations et de retard de développement chez l'enfant. La justice condamne l'État à indemniser 3 familles. Elle estime que les responsabilités sont aussi partagées dans une moindre mesure par le laboratoire Sanofi et les médecins prescripteurs. La réunion de clôture du Ségur de la Santé prévue demain est reportée. Le ministère serait sur le point de proposer une rallonge de plus de 400 millions d'euros après les 6 milliards débloqués il y a un mois. C'est trop faible, estiment les syndicats. Et puis le tournoi de Roland-Garros accueillera jusqu'à 20 000 spectateurs sur l'ensemble de ses courts pour sa prochaine édition, édition 2020 reprogrammée du 27 septembre au 11 octobre. C'est 50 à 60% de moins qu'en temps normal, précise la Fédération française de tennis.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Gilles Bornstein, allez, premier tour de table avec vous. On démarre. Premières impressions sur ce qu'en a dit notre confrère Bruno Dive. Pour l'instant, il va falloir attendre un petit peu pour savoir ce qui va se passer dans ce pays.
Voilà, c'est pas très facile de savoir à travers ce qu'il nous a dit. Je crois pas que ça soit de la faute de Bruno, c'est parce que manifestement, le président de la République ne se dévoile pas beaucoup. Alors une intervention, il est de plus en plus question d'une intervention ce dimanche, ou peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que Emmanuel Macron continue à être le maître des horloges et à faire exactement ce qu'il veut, quand il veut. La fin, je trouve que ce qui est intéressant dans ce qu'a dit Bruno, c'est que rien sur le fond de la politique menée est de nature à effrayer le Premier ministre s'il devait quitter son poste. Parce que moi, j'ai eu l'impression dans la séquence précédente que le président de la République, en annonçant qu'il reprenait la quasi-totalité des mesures sur de la Convention citoyenne sur le climat, disait au Premier ministre, bah voilà, ma politique c'est celle-ci, je la décide et si tu veux, tu l'exécutes, et si tu veux pas, tu t'en vas.
Donc ça reste très mystérieux. mystérieux.
Pour ne pas endosser lui-même le départ d'un Premier ministre qui a 20 points de popularité de plus que lui et qui vient d'être réélu triomphalement. Et je ne sais pas si on a déjà le droit de parler du sondage, mais dont vote le sondage dont on va parler. Le sondage dont on va parler, que j'ai lu, dit très clairement que les Français veulent à la fois un changement de politique, mais qu'ils veulent que ça soit le même Premier ministre qui pourtant n'est pas d'accord avec la politique qu'ils veulent, que ça soit ce Premier ministre qui l'amène. Donc voilà, on n'en sait toujours rien. Désolé de dire ça, mais voilà, on n'en sait toujours rien.
On n'en sait toujours rien, vous dites ce soir, Gilles Bornstein. Françoise Benhamou, je me tourne vers vous, vers le cercle des économistes. Je rappelle que la thématique, au fond, est extrêmement d'actualité de ce qui va se dérouler pendant ces trois jours. À quoi peut ressembler le monde de demain? Éviter une crise sociale, construire un grand plan débattu et partagé. Et j'ajoute, renouveler les relations européennes et internationales. Emmanuel Macron, il est dans cette séquence précise-là, une sorte de relance, de reconstruction en même temps, dans un contexte extrêmement étriqué, si je puis dire.
Effectivement, alors ces rencontres, elles s'inscrivent à un moment tout à fait particulier de l'économie mondiale, hein, avec des prévisions du FMI qui sont particulièrement mauvaises pour la France, hein, deux fois plus mauvaises que celles pour le reste du monde, en termes d'évolution du PIB, donc on est très inquiet. C'est le choc majeur qu'on évoquait tout à l'heure. Il y a... pour reprendre un deuxième terme qui m'a frappé tout à l'heure, c'est le dialogue social, la nécessité à la fois d'un dialogue social, mais aussi de regarder en face le fait qu'on est devant un choc de chômage qui va être considérable, hein, avec 700 000 jeunes à la rentrée qui n'auront pas d'emploi, ou difficilement, et par ailleurs, un certain nombre de plans sociaux, des faillites d'entreprises, c'est-à-dire vraiment ce problème majeur. Et d'ailleurs, ce qui m'a frappé, troisième point, c'est qu'on n'a pas évoqué, alors je suppose que le président l'a fait, l'écologie.
Oui, l'écologie. Dominique Régnier, ça sera d'ailleurs l'alpha et l'oméga des semaines qui, des mois qui viennent. C'est fort à parier que le virage arrive, le virage vert, du moins en affichage.
Moi, je suis très perplexe devant cette notion-là, dans la manière dont on l'utilise. Non pas qu'il n'y ait pas un impératif environnemental, personne ne peut contester. Mais la France est un pays qui s'en tire bien sur ce plan-là, qui ne carbone pas. Je pense qu'il y a, une question à résoudre. Et je trouve pas qu'elle soit aujourd'hui démêlée. Françoise Benhamou vient de le dire, on va avoir un chômage énorme. Et parmi, au sein de ce sujet, le plus dramatique, en effet, c'est le chômage des jeunes. Ça va être très difficile. C'est une génération qui va en prendre plein la figure. Il nous faut de l'investissement, il nous faut de la création d'entreprises, il nous faut de la croissance, il nous faut créer de l'emploi. Je ne sais pas si ça rentre dans le discours que j'ai entendu sur l'écologie et la place de l'économie dans nos vies. Donc je suis frappé parce qu'il y a une espèce de... on en reparlera peut-être, mais on ferme Fessenheim... on veut décarboner la France, mais Fessenheim, ça contribue à décarboner la France. On veut relancer la croissance, et il le faut.
Vous pensez que c'est un discours, une injonction, ils sont sur le fil de l'eau, c'est ça?
Non, je trouve que c'est contradictoire.
Contradictoire.
Alors qu'on peut faire de l'écologie créatrice de valeur, c'est bien sûr, d'emploi, etc. Mais il faut le dire plus clairement, et non pas donner le sentiment d'accréditer la thèse de la décroissance, qui serait absolument funeste.
Pour revenir sur le récit de Bruno Dive, qui a participé tout à l'heure ce matin à cette interview présidentielle, je vais vous faire réagir, Chloé Morin, mais pour nous remémorer un petit peu les vœux présidentiels précédents, souvenez-vous, l'allocution du chef de l'État, c'était le 14 juin, son allocution télévisée la dernière.
Et les temps imposent de dessiner un nouveau chemin. C'est ainsi que chacun d'entre nous doit se réinventer, comme je l'ai dit. Que nous devons collectivement faire différemment. Et vous l'avez compris, dans ce que j'ai commencé ce soir à esquisser, je me l'applique d'abord et avant tout à moi-même.
Alors ça, c'était le 14 juin dernier, Chloé Morin. C'est pas si vieux que ça, en fait. Cette réinvention, vous pensez qu'elle est possible aujourd'hui avec ce qui a été évoqué, notamment ces 800 000 chômeurs qui arrivent, ces 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail cette année?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. On n'arrive pas à avoir la stratégie à ce stade. On a un petit peu l'impression qu'en fait, depuis le confinement, le président nous dit « je vais vous annoncer des choses », et puis d'allocution en discours et de discours en interview, on attend de voir. Il gère les attentes. Alors c'est un peu étrange. Donc c'est évidemment extrêmement compliqué. Une fois qu'on a dit qu'on va se réinventer, qu'on dit qu'on va tracer un nouveau chemin, on s'imagine se projeter. Voilà, on s'imagine qu'on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'on va se projeter comme ça dans un nouveau modèle, etc.
C'est pas le cas, hein.
à ce stade, on a du mal à... On a l'impression qu'il y a des petites briques qui sont posées un peu ici et là, et qu'il n'y a pas de, d'architecture d'ensemble qui...
Plus il fait de teasing, plus il augmente les attentes, et on n'a pas l'impression que ces attentes vont être satisfaites. Voilà. Je me rappelle, on avait commenté ensemble cette intervention du 14 juin, oui. Où beaucoup à table disaient, franchement, c'est scandaleux, il dérange les Français pour pas dire grand chose. Moi, j'étais plutôt clément, je disais, bon, il avait pas voulu trop laisser la parole à son premier ministre trop populaire. Attendons, il va faire un discours début juillet pour nous dire où il va. Mais là, franchement, s'il fait une interview dans la PQR avant de parler dans 3 jours, dans une interview dans la PQR pour pas dire grand chose, ça sert pas à grand chose. Et surtout,
ça ne sert à rien pour vous. Hein.
Mais surtout, je trouve que c'est contre-productif. Ouais. À force de dire je vais changer, c'est comme en attendant Godot. À force de dire je vais changer. Ouais. Et ne jamais nous dire en quoi et comment il change et avec qui. Eh bien, voilà, les Français finissent par se lasser. Il y a un moment, alors, il faut qu'ils nous disent c'est quand qu'on va où, comme dirait
Renaud. Il y aura un acte très concret, hein, c'est ce changement d'équipe, ce remaniement, ce deuxième souffle peut-être, du moins c'est ce que Emmanuel Macron recherche. Pourquoi pas un Premier ministre vert ? Question posée à Nicolas Hulot sur France Info ce matin.
Ça aurait de la gueule. Ce que je souhaite, au-delà de tout, c'est que ça soit pas, qu'il n'y ait pas simplement un casting avec un homme et une femme symbolique. Et c'est plutôt, moi, à l'organisation gouvernementale que je verrai si on est en capacité ou pas de mettre en œuvre une transition. Donc, pour ça, il faut une feuille de route et qu'il soit piloté, monitoré toutes les semaines par le gouvernement. Mmh. Donc, il faut qu'au plus haut niveau, et c'est vrai qu'il y aurait un premier ministre ou un vice-premier ministre qui ait autorité sur le reste des ministères. Et encore une fois, j'insiste bien, si l'agriculture, et ça n'est pas une manière de stigmatiser l'agriculture, loin de là, au contraire, pouvait être sous la tutelle du ministère de l'écologie, voilà déjà un bon signe.
Dominique Reynier, ça aurait de la gueule, ce Premier ministre vert, pas forcément, oui, non. C'est ce qu'on met dedans, en fait.
Il y a des choses qui sont même effrayantes. Quand on mange un discours pareil, je me dis, bon, on va encore créer des systèmes à tutelle qui vont mettre, sous autorité d'une administration.
Des strates, en fait.
C'est quand même, on sait que là, on en a beaucoup. Et puis, juste une remarque, le problème ici, c'est que Nicolas Hulot, il a été en charge, et il est parti tout d'un coup. Et il y a un problème aussi avec les écolos, je trouve, en matière de quand il faut se retrouver. La réalité, c'est que c'est plus compliqué. On peut pas faire forcément la révolution qu'on veut, mais on peut aider quand même à améliorer les choses.
Quoi. Allez, 20h20 sur France Info. Nous allons rester sur ce problème, si je puis dire, Édouard Philippe. Le fil info, Frédéric Bagnada.
Emmanuel Macron poursuit ses consultations dans la perspective du remaniement gouvernemental. Reçu en fin d'après-midi à l'Élysée, les présidents du Sénat, de l'Assemblée et du Conseil économique et social. La nouvelle équipe devrait être connue d'ici à mercredi prochain en attendant l'interview du chef de l'État dans la presse régionale. Nous allons vers un cataclysme social à l'automne, prévient Force Ouvrière après la présentation du plan social d'Airbus. Le site de Toulouse serait fortement impacté avec la suppression de près de 3400 postes. Les sites de Nantes et Saint-Nazaire sont également concernés. Au total, Airbus prévoit de supprimer près de 15 000 emplois dans le monde. Une victoire en trompe-l'œil pour les victimes de la dépakine, un médicament pris par de nombreuses femmes enceintes à l'origine de malformations chez l'enfant. La justice reconnaît pour la première fois une carence fautive de l'État, mais c'est une victoire en demi-teinte puisque de nombreuses familles ne seront pas indemnisées. Nouvel imbroglio dans l'affaire Traoré. Les avocats livrent 2 versions contradictoires d'une audition clé, celle d'un homme chez qui Adama Traoré s'était réfugié le 19 juillet 2016 à Beaumont-sur-Oise, juste avant son arrestation. De l'aveu même des autorités, c'est une affaire particulièrement grave. 4 policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis mis en examen pour faux et usage de faux en écriture. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. 3 d'entre eux sont également visés par des soupçons de violence en réunion, des faits graves qui ont conduit à la dissolution de leur service.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Tenez, Françoise Benhamou, avec vous, un petit moment de tendresse. Hein. C'est assez récent, souvenez-vous, ce propos d'Édouard Philippe à 2 jours de sa réélection en mode philosophe de la vie.
Il faut être très déterminé à peser sur ce sur quoi on peut peser. Et à faire bien ce qu'on peut faire. Et puis après, il faut une forme de distance avec les choses sur lesquelles finalement on a peu prise. Avec l'âge, oui, je me sens plus emprunt par cette sagesse-là que par d'autres.
Oui, ça c'est donc, juste avant sa réélection, Françoise Benhamou, il nous dit peser sur ce sur quoi on peut peser. C'est presque un aveu, ça signifie qu'on n'a pas forcément une façon d'imprimer. Je vous rappelle que agir face au dérèglement du monde, vous ajoutez sur l'intitulé des rencontres économiques.
On va s'en sortir.
On va s'en sortir avec un point d'exclamation, c'est presque une injonction finalement.
Oui, on va tout faire pour s'en sortir. C'est-à-dire que notre idée, à l'occasion de ces rencontres, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que à la fois le public s'exprime grâce aux sites qui sont ouverts pour le public, et puis qu'on ait tous ces intervenants étrangers, français, venus de tous bords, de tous horizons, pour à la fin arriver à, je ne vais pas dire un programme, mais des vraies propositions. Après, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, et je trouve que les propos d'Edouard Philippe sont très honnêtes. C'est peut-être à travers ça, d'ailleurs, qu'il attire autant la sympathie des Français.
Il est en train de nous dire carrément, Chloé Morin, qu'on ne peut pas tout faire, il ne peut pas tout réussir finalement. Vous n'êtes pas d'accord, Régine Pantoustane, vous, hein?
Non, pardon Chloé, là je crois qu'il parlait de politique. Hein.
Il disait politique,
juste que les bureaux étaient fermés, qu'il n'allait pas aller voter à la place des électeurs. Voilà, il a fait campagne, maintenant il ne peut plus rien faire.
Oui, mais on a envie de le lire de façon subliminale.
Et puis surtout, maintenant le président de la République a mon sort entre les mains, donc moi je fais ce que je
suis philosophe.
Et puis après, voilà, je ne crois pas qu'il y avait des... Je ne crois pas qu'il parlait d'économie et de la marche de la France du monde.
Oui, encore que ça correspond un peu à la manière dont il a géré le confinement, de manière finalement avec humilité, quoi, en disant ben voilà ce qu'on sait, ce qu'on sait pas, voilà ce qu'on essaye de faire, voilà ce qu'on peut pas faire. Ça correspond quand même assez bien. Et c'est finalement un trait de caractère qu'on l'a, l'humilité, alors qu'elle soit réelle ou pas. Qu'on lui a découvert un peu pendant le confinement et qui tranche tellement avec l'image qu'on a, enfin que l'opinion en général a d'Emmanuel Macron, que finalement ça le rend sympathique. Ça explique en partie que qu'il soit préféré, en tout cas en termes de popularité à ce stade, à Emmanuel Macron. Et ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est que le sondage que Gilles évoquait tout à l'heure, c'est que les gens veulent changer de politique, mais pas de Premier ministre. Et ça montre bien que quelque part, ils n'incarnent pas la politique qu'ils mènent. Pourtant, ils l'assument. Enfin, moi, j'ai jamais entendu qu'il était fondamentalement en désaccord avec les orientations décidées par Emmanuel Macron, mais par ses traits d'image et sa manière de se comporter, en fait, il n'incarne pas cette politique-là.
Gilles Bernstein, ça compte, un locataire de Matignon ou des ministres qui incarnent au fond un virage dans un quinquennat, ça compte finalement les incarnations, les personnalités.
On ne sait toujours pas si le président de la République veut changer de politique ou pas. Et là, je tombais à l'instant même sur l'éditorial de Dominique Seux dans Les Échos demain qui s'appelle « Avoir des informations ou pas ». Donc Dominique Seux est comme nous. Il n'a pas d'information. Alors, on ne peut que spéculer.
Le mystère, c'est possible.
Oui, si Emmanuel Macron veut incarner, il l'a dit dans l'extrait, c'était quoi, un nouveau chemin.
Oui.
Voilà, il faut un nouveau chemin. Et si, pour des raisons de politique, il est obligé de composer avec son Premier ministre, encore une fois, parce qu'il est populaire et parce qu'il vient de recevoir une réelle onction démocratique, c'est compliqué de virer quelqu'un qui vient de faire près de 60% des voix dans sa propre ville. Eh bien oui, il va falloir que ce changement soit incarné par d'autres changements. Et d'ailleurs, les ministres disent, si c'est pas Édouard Philippe qui dégage, c'est nous qui allons dégager. Parce qu'ils savent bien que comme il n'y aura pas ce symbole de Matignon, eh bien il va falloir que le Premier ministre, que le Président de la République et donc le Premier ministre restant trouvent dans le reste du gouvernement là vraiment des éléments de changement pour marquer une rupture. Et franchement, ça n'a pas l'air facile à trouver.
Dominique Régnier, il faut enclencher de nouvelles politiques, ça existe ?
Oui, bien sûr, il y a des tas de possibilités. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, j'étais d'accord avec Chloé Morin qui voyait une interprétation plus large que politique de ce qu'on a entendu de notre Premier ministre. Moi, j'ai un peu le sentiment que on devrait faire davantage confiance au territoire, aux Français, aux acteurs. Parce qu'à chaque fois qu'on parle d'action politique, on parle d'agir pour expliquer à nos compatriotes comment il faudrait qu'ils vivent pour que le pays aille mieux. Mais je pense qu'on est on est pas dans cette société là hein. Moi je dirais au fond le programme ce serait de dire au chef de l'État, au Premier ministre, dites ce que vous n'allez plus faire pour que les choses aillent mieux. pas simplement donner
soit
le sentiment.
Qu'elles soient peut-être déléguées là où elles doivent
organisées, on va dire. On le voit bien. On fait toujours l'apologie d'une forme d'autogestion, parce qu'il y a une grande promesse là-dedans, de toute façon, quel que soit le mot qu'on utilise. Mais à chaque fois qu'on est en train de faire de la politique et des politiques publiques, c'est d'en haut. Et on va expliquer, d'ailleurs, c'était même les propos de Nicolas Hulot, on va expliquer à tout le monde comment il doit travailler ou vivre chez lui, mais depuis Paris. C'est quand même quelque chose qui ne peut plus fonctionner, mais c'est évident, ça. Si on peut casser ça, on fait un grand progrès. Et je pense que les Français se sentiraient moins humiliés d'être sans cesse invités à se comporter comme on attend d'eux.
Allez, on va évoquer ce fameux sondage, hein, notre enquête au Doxa Dentsu Consulting pour France Info Le Figaro sur les Français qui réclament donc à Emmanuel Macron un tournant écologique et social. C'est dans la deuxième partie des informés de France Info. Nous nous retrouvons dans une poignée de minutes.
Entrepreneur, vous trouvez que vous passez trop de temps à la gestion administrative de votre entreprise ? Imaginez ce que vous pourriez faire à la place.
Je prendrais plus de temps pour servir mes clients.
Moi, je créerais mon site internet.
BNP Paribas lance Mon Business Assistant, un service de gestion simple et sécurisé intégré à votre espace client professionnel. Prévisionnel de trésorerie, devis et factures automatisés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mabankpro.bnpparibas. BNP Paribas, toujours là pour vous. Voir conditions sur mabankpro.bnpparibas.
France Info Météo, avec le CIC. Agir sur le terrain, près de vous, maintenant. CIC, reconstruisons dans un monde qui bouge.
La météo avec les prévisions de Jean-Pierre Hameau de Météo France.
Demain, les nuages vont laisser un peu plus de place aux éclaircies. À noter un ciel plus chargé et menaçant au-dessus des massifs pyrénéens et alpins, lâchant quelques averses par moment. Et puis, on surveillera une évolution orageuse en fin d'après-midi du côté des Alpes-Maritimes, débordant jusque vers le littoral en soirée. Vous apprécierez de belles éclaircies l'après-midi le long de la côte atlantique. L'ensoleillement sera généreux autour du golfe du Lion ainsi qu'en basse vallée du Rhône. En contrepartie, Mistral et Tramontane vont souffler jusqu'à 80 km par heure. Côté température, les minimales en fin de nuit seront fraîches, généralement comprises entre 10 et 15 degrés, comptez 17 à 22 autour de la Méditerranée. Les maximales, toujours un peu justes pour la saison, évolueront souvent entre 19 et 24 degrés, prévoyez 19 à Brest, 21 à Tarbes, 22 à Lille et Biarritz, 23 à Tours et Bordeaux, 24 dans la capitale comme à Nancy et Dijon, et puis ce sera toujours plus chaud dans le sud, avec 30 degrés à Bastia, Toulon et Montpellier.
Sur le site, l'application et sur smartphone, France Info, plateforme d'actualité numéro 1.
(20h30 sur France Info, l'info avec vous. Bonsoir Emmanuel Langlois.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Les suites des municipales et du deuxième tour dimanche dernier à Marseille. La candidate Les Républicains Martine Vassal, arrivée en deuxième place à l'issue de ce second tour, se retire de la course à la mairie pour laisser sa place au député LR et doyen du conseil municipal Guy Tessier. Seulement voilà, un deuxième élu Les Républicains, Lionel Royer-Perrot, annonce ce soir sa candidature. L'élection comme maire de Marseille est prévue après-demain. Airbus a de son côté détaillé son plan social dans la journée. Ce sont près de 5000 postes qui seront supprimés en France, dont 3500 à Toulouse, près de 500 à Nantes et 600 à Saint-Nazaire. Le coup est rude, reconnaît sur France Info le maire de Saint-Nazaire, David Sanzin.
C'est une très mauvaise nouvelle. Elle est dure, elle est rude. Et donc là, je lance non pas une alerte, mais il faut absolument que les partenaires sociaux, la direction, et puis bien sûr l'État, soient le plus protecteurs possible pour éviter tout licenciement en sec. Il faut accompagner les départs en retraite. Je crois que le plan de l'État, notamment les 15 milliards qui avaient détaché cette plus 8, doit permettre d'éviter une casse sociale qui serait dramatique. Je pense aussi à tous les sous-traitants et les plus petits d'entre eux. C'est toute une filière qui fait vivre Saint-Nazaire. Donc vraiment, moi, si j'ai un message à faire passer, c'est le dialogue social, il a un sens. On connaît bien Saint-Nazaire. Et moi, je compte sur la responsabilité de la direction et bien sûr des partenaires sociaux et du rôle d'amortisseur social que doit constituer l'État.
David Sanzin, le maire de Saint-Nazaire, tout à l'heure sur France Info avec Céline Asselot. Jean-Luc Moudin, le maire de Toulouse, lui appelle à ne pas déshabiller les compétences toulousaines parce que, dit-il, un jour, l'aéronautique va redémarrer. Enfin, pour le président d'Airbus, une bonne partie de ces emplois pourraient être sauvés si l'Allemagne et la France apportaient leur aide. Malformation, autisme, trouble ORL. Pour la première fois, la justice reconnaît la carence fautive de l'État ainsi que celle de Sanofi et de médecins dans les effets dévastateurs de l'antiépileptique Dépakine. Cette décision de la justice administrative ouvre la voie à des indemnisations pour les familles. Stéphane Richard lui appelle à purger le débat sur la 5G, la future norme de communication des smartphones. Le PDG d'Orange se dit en effet inquiet face aux réserves ou à l'hostilité de certaines nouvelles municipalités écologistes. Élu dimanche dernier, les enchères pour l'attribution de ces nouvelles fréquences doivent se tenir à partir de septembre. La contagion Covid-19, elle atteint des niveaux records dans le monde, particulièrement sur le continent américain où le nombre de décès continue d'exploser. Brésil en tête avec plus de 60 000 morts. Les États-Unis également sont particulièrement touchés. La France, elle enregistre 14 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. Le bilan continue d'approcher sans les atteindre les 30 000 morts depuis le début de l'épidémie en mars. Le nombre de patients en réanimation dans l'Hexagone poursuit lui aussi sa décrue d'après les derniers chiffres du ministère de la Santé. 20h33 sur France Info, les informés. Deuxième partie, Jean-François Aquili et ses invités.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Françoise Benhamou, professeure à l'Université Paris 13 et membre du Cercle des économistes. Je rappelle que les rencontres économiques en scène avec le Cercle et France Info se déroulent tout ce week-end à la Maison de la Radio et sur franceinfo.fr. Avec Dominique Régnier, directeur général de la Fondapol, professeur à Sciences Po, avec Chloé Morin, politologue associée à la Fondation Jean Jaurès et cofondatrice du blog Nos Lendemains, et Gilles Bornstein, éditorialiste politique à France Info. Nous avons évoqué tout à l'heure cette interview donnée par Emmanuel Macron à la presse quotidienne régionale. Les premiers éléments sont rendus publics ce soir. Emmanuel Macron en appelle à se préparer à une rentrée économique très dure. Nous l'avons évoqué en ouverture des informés de France Info avec Bruno Dive. Il évoque également les retraites, réengager une concertation avec les partenaires sociaux dès cet été. Nous allons repartir donc dans la réforme des retraites, les priorités du chef de l'État, la santé, le grand âge, les jeunes, et rien évidemment sur ce remaniement qui semble désormais imminent. Les Français, en tous les cas, demandent au chef de l'État un tournant écologique et social. C'est notre enquête au Doxa. On y vient d'Antsu Consulting, France Info, Le Figaro, réalisé hier et aujourd'hui auprès d'un millier de personnes en ligne. Gaël Sliman, quelques éléments avec vous, le président et cofondateur de Doxa.
Clairement, un remaniement et pour les trois quarts d'entre eux, un changement de politique. Mais alors, pour bien compliquer la vie d'Emmanuel Macron, remaniement, changement radical, mais en gardant le même. C'est un peu la quadrature du cercle que demandent les Français à Emmanuel Macron. Il y a cette demande de changement que l'on constate chez toutes les catégories de la population, et donc ils veulent vraiment cet acte dit 3. Et effectivement, pour eux, ça signifie très clairement donner un tournant, je cite entre guillemets, plus écologique et social à la politique d'Emmanuel Macron, en tenant compte de ce succès des écologistes aux élections municipales. Ils sont 67%, les Français, à le réclamer.
Voilà donc pour la philosophie de cette enquête. Chloé Morin, donc c'est trois quarts des Français, 75% qui réclament un changement de politique, mais pas de Premier ministre, hein, comme l'évoquait tout à l'heure Gilles Bornstein. Commentaire.
Oui, alors c'est assez, disons, régulièrement que les Français demandent un changement de politique. Globalement, quand c'est une politique de droite, ils demandent une politique de gauche, et quand c'est une politique de gauche, c'est une façon de demander que les choses dans leur quotidien changent. Après, la direction, souvent, voilà, c'est un peu une règle immuable, on va dire. Et souvent, ils demandent, c'est comme les référendums d'ailleurs, ils demandent toujours des référendums. Oui. Et puis ils demandent des changements de gouvernement. Mais quand on regarde l'impact d'un changement de gouvernement, dans l'histoire récente, c'est rare qu'un changement de gouvernement au milieu d'un quinquennat ou d'un septennat d'ailleurs, ait un réel impact sur la perception que l'opinion peut avoir en l'occurrence du président et même de sa politique, parce que c'est rare qu'il y ait des inflexions majeures en cours de route. Donc C'est vrai que là, le président il fait face à des injonctions contradictoires qu'il sera difficile de concilier, parce que même plus de social, ça veut dire quoi ? C'est compliqué. Et plus d'écologie, ça veut dire quoi ? C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a plein de manières de faire de l'écologie.
Françoise Benhamou, sur ces deux tiers de Français dans cette enquête, souhaitent que le changement de politique prenne la forme d'un tournant plus écologique et social dans cette politique d'Emmanuel Macron. Très concrètement, ça doit correspondre à quoi ? On parle de quoi ? De qualité de vie, d'emploi vert ?
Oui, alors je pense que ce sont quand même deux choses différentes que souvent on associe à l'écologie et le social. Mais bon, parce que beaucoup d'écologistes sont de gauche sans doute. Mais en fait, c'est pas du tout le même sujet. C'est-à-dire l'écologie, on est effectivement... Dans le bien commun, le bien-être, toutes les questions climatiques. Et alors, très concrètement, ça peut être, par exemple, la rénovation énergétique des bâtiments, etc. Donc, effectivement, c'est du bien-être qu'on ajoute aux gens. Le social, on est plus dans les questions peut-être revoir la rémunération de certaines professions, non seulement leur rémunération, mais leur statut, revaloriser donc ces professions-là. On l'a beaucoup dit au moment du confinement, toutes ces professions tellement utiles et tellement mal rémunérées. Il y a ce côté-là, il y a la question du chômage qu'on a évoqué tout à l'heure, il y a la question des retraites, effectivement, reprendre la réforme, mais peut-être en la revoyant un peu, au moins à la marge, etc. Donc ce sont deux sujets complémentaires pour moi.
Dominique Régnier, dans ce sondage également, il est dit qu'au fond, Europe Écologie Les Verts, on va pas trop rentrer dans le détail, il faut aller consulter l'enquête sur franceinfo.fr, que désormais EELV jouit d'une très belle image dans l'opinion, 6 Français sur 10, parti d'avenir, utile à notre vie politique et dont ils partagent les valeurs. Serions-nous sur une nouvelle séquence dégagiste aujourd'hui, au fond ?
Moi, je pense que la séquence du dégagisme se poursuit. Elle a commencé en 2016, au moins avec les primaires. Elle a été très spectaculaire en 2017, pour faire l'histoire de tout cela. Et là, nous y sommes toujours, mais c'est une poussée qui est de plus en plus forte. Pour moi, le grand événement de ces municipales, c'est l'abstention. Je suis estomaqué qu'on ait fait une semaine sur la déferlante verte, avec si peu de Français qui se sont déplacés. Jamais dans l'histoire de nos élections, nous n'avons eu aussi peu d'électeurs pour une élection adorée de nos compatriotes. Donc il y a un problème profond, et c'est ça qui est en train de la fissuration, du pilier fondamental. Et donc le sujet à traiter, oui, c'est quand même ça aussi aujourd'hui. Le reste me paraît assez superficiel en fait, et sans doute.
Quand vous dites le reste, c'est-à-dire vous.
Il y a une espèce de moment médiatique, voilà. Mais les écologistes ont très très bien vendu des victoires qui sont très 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 modestes. On n'a pas le temps d'en parler, mais on pourrait le montrer. D'ailleurs, nous, on va le faire parce que il faut juste voir la réalité. C'est juste, ils ont fait de beaux scores dans telle ou telle ville. Ils ont quelques élus de plus, mais attention de ne pas confondre la vague verte avec une vague d'abstentionnisme qui est très préoccupante et qui fera l'élection.
Qui est pour vous le principal événement du scrutin.
Ah ben oui, et ça fera 2022. L'abstention, quand elle vient à un certain niveau, c'était le cas le 29 avril 2002, fabrique le résultat électoral. Voilà.
20h40 sur France Info, c'est le moment du fil info, Emmanuel Langlois.
Avec la réunion de clôture du Ségur de la Santé, elle est reportée, elle était prévue demain. Olivier Véran, le ministre de la Santé, propose une rallonge de 400 millions d'euros à l'enveloppe initiale de 6 milliards attribuée aux personnels non médicaux et paramédicaux, 500 millions de plus pour les hospitaliers, mais apparemment le compte n'y est pas. Si l'on en croit les syndicats, la CFDT réclame 8 milliards de hausse de salaire. Karim Benzema sous la menace d'un procès en correctionnel, le parquet de Versailles demande en tout cas sa comparution pour complicité de tentative de chantage. C'est la fameuse affaire de la sextape de Mathieu Valbuena en 2015. L'attaquant star du Real Madrid aurait incité son ex-coéquipier en équipe de France à payer des maîtres chanteurs qui menaçaient de dévoiler une vidéo intime. Ce coup de tonnerre dans la course à la succession de Jean-Claude Gaudin à Marseille, quelques heures à peine après le retrait de Martine Vassal au profit du député Guy Tessier, un deuxième élu Les Républicains, Lionel Royer-Perrot, annonce à son tour sa candidature à l'élection du maire après-demain samedi. Ils sont 3, Xavier Niel, Marc Simoncini et Jacques-Antoine Grandjean qui s'engagent pour un référendum contre la maltraitance animale. Trois grands patrons français qui proposent aux citoyens six mesures phares, dont la fin de l'élevage en cage. Aux États-Unis, après les paroles, les actes, le Congrès américain adopte une loi qui prévoit de sanctionner les responsables chinois appliquant les nouvelles règles sécuritaires répressives contre Hong Kong. La loi cible aussi les banques qui les financent, un vote qui devrait provoquer la colère de la Chine. Et puis les experts parlent d'un retour à la normale prématuré. Les restaurants et les bars de Rio de Janeiro rouvrent après une paralysie de plus de 3 mois due à l'épidémie au Brésil, alors que le pays vient de franchir aujourd'hui le cap des 60 000 décès.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Oui, nous évoquerons dans un instant ces mésaventures survenues à Marseille, à Martine Vassal. Mais tout d'abord, restons sur notre enquête au Doxa Dentsu Consulting, France Info, Le Figaro. Les Français qui demandent à Emmanuel Macron un tournant écologique et social. Cette vague verte dimanche dernier au deuxième tour des municipales, est-ce un signal envoyé au gouvernement? Écoutez Bruno Bernard, le tout nouveau président vert de la métropole de Lyon.
On va changer, on a les objectifs qui ont été définis. Et donc, on va les atteindre. Pas dans la brutalité, il faut convaincre et il faut faire adhérer et les habitants et les acteurs associatifs et économiques et les maires pour aller ensemble dans la direction que les électeurs nous ont fixée. Donc la direction et le point d'arrivée, ils sont connus et le chemin, on va le faire avec toutes et tous pour que ça se passe le mieux possible.
Chloé Morin, tout à l'heure, c'est Dominique Régnier qui disait qu'au fond, le problème dans ce pays, c'est que tout vient d'en haut et puis ça ne ruisselle pas forcément en termes de décisions publiques. Là, les choses vont changer selon vous? Il va se passer quelque chose de l'ordre des collectivités territoriales qui se mettent au vert, une commande publique qui change.
Bah, en tout cas, ça fait partie des pistes qui ont été, qui ont filtré sur les intentions du président, qui aimerait probablement soit décentraliser un peu plus les décisions, soit déconcentrer. Alors c'est il faudra voir s'il arrive à le faire. C'est vrai que, en tout cas, ce qui est vrai, c'est pendant le confinement, on s'est rendu compte que l'État ne pouvait pas tout, qu'on avait une administration qui avait tendance à être parfois lourde, à vouloir intervenir sur des sujets sur lesquels elle n'a pas à intervenir, à vouloir réglementer des choses, y compris extrêmement précise, et puis avoir des carences sur d'autres sujets sur lesquels l'État est pourtant attendu. Donc il y a clairement un problème qui a été mis en avant de quel est le bon échelon pour agir au bon endroit. Et dans cette problématique-là, mais c'est la difficulté, c'est que il y a 2 ans ou 3 ans, le gouvernement a commandé un rapport à un groupe d'experts qui venait d'un peu tous les horizons, qui s'appelait, je crois, Cap 2022 ou Cap 22 ou je sais plus quoi. L'idée, c'était de dire, dites-nous comment on doit réinventer l'État, qu'est-ce qu'on abandonne. Enfin, l'ambition était grande. La consigne était d'être disruptif. En tout cas, moi, c'est la lecture que j'avais faite de ce rapport. Et puis ensuite, ce rapport a été rendu et puis ça n'a rien donné. Donc, bon, peut-être qu'ils peuvent ressortir des rapports des tiroirs et puis aller piocher dedans aussi.
Gilles Bornstein, c'est ça le problème finalement, c'est au fond prendre un virage économique et social et que ça ne donne pas forcément de résultats très concrets sur le terrain.
Ah bah, en tout cas, je crois que c'est exactement le problème du président de la République. C'est-à-dire que le président de la République, il dit, enfin, vous savez, là, vous connaissez la célèbre formule « je décide, ils exécutent ». Là, le problème du président de la République, c'est qu'il décide et qu'il a l'impression, en tout cas, que personne n'exécute. Et c'est ça qui l'exaspère. Les macronistes parlent souvent de vitesse d'arrivée dans l'atmosphère, d'atterrissage dans l'atmosphère des décisions qu'on prend. Ils ont l'impression qu'ils ont fait des réformes, qu'ils ont essayé de réformer le pays, et que de fait, si les Français sont pas contents, c'est parce qu'ils ne s'en rendent pas compte dans leur quotidien. Alors, il y a certainement, c'est peut-être un peu exagéré, mais il y a certainement beaucoup de vrai là-dedans. Puis-je dire un mot sur les Verts et l'abstention ?
Allez-y.
De ce que disait Dominique tout à l'heure. Quand Dominique dit que l'abstention va faire les élections, je suis d'accord. Mais si on a des électeurs verts très motivés, et j'ai l'impression qu'en ce moment, les plus motivés sont les sympathisants verts. Oui. couplé à une abstention massive, eh bien, ça peut renforcer, je parle sous le contrôle de Chloé, grande spécialiste de l'opinion, ça peut renforcer l'importance relative des Verts dans les élections futures.
Absolument.
Alors certes, ce ne sont que des élections locales, mais voilà, une forte abstention des autres et une forte motivation des Verts, ils peuvent quand même avoir un rôle à jouer, d'autant que j'ai lu le sondage et j'étais très étonné de voir que c'est vrai que tout un tas de traits qu'on prêtait aux Verts ont disparu. On ne les juge pas Khmer Vert, on ne les juge plus nuisibles à l'économie, on ne les juge pas trop à gauche, de sorte qu'avant on se disait bah, les Verts pour les élections locales c'est très bien parce que pour des cantines bio et des bus électriques c'est très bien, mais enfin on ne va pas leur donner les clés du camion. J'ai l'impression, enfin à la lecture de ce sondage et des résultats des élections, j'ai l'impression que les Français sont tout doucement en train de changer d'avis sur les Verts.
Oui, et Chloé Morin ?
Oui, et d'ailleurs, c'est un défi pour eux dans les deux années à venir. C'est est-ce que, justement, à l'épreuve des faits, on va quand même regarder ce que font les uns et les autres, surtout dans des, aux commandes de grandes villes. Est-ce qu'ils vont être à la hauteur de cette image qui, effectivement, moi aussi, ça m'a surpris, est extrêmement positive, avec aucun des traits d'image négatifs qu'on a l'habitude quand même d'accoler au Vert.
Françoise Benhamou.
Mais moi, je crois que paradoxalement, la Convention citoyenne, dont on a beaucoup parlé juste avant les élections, a servi aussi cette victoire des Verts, sans doute à la marge un petit peu, mais quand même. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on pouvait marier une politique écologique et un changement de méthode, pour le coup, en faisant plus participer les citoyens à la décision publique. Et de ce point de vue-là, peut-être le gouvernement a joué contre lui-même.
Mais vous estimez, vous, Françoise Benhamou, que ce principe qui consisterait à démultiplier ces conventions citoyennes et les faire passer par la chambre, enfin le Conseil économique, social et environnemental, c'est une bonne idée? C'est quelque chose qui va s'installer dans le paysage politique de ce temps, la marche du pays?
C'est dans l'air du temps. Et il y a beaucoup d'expériences analogues qui se mènent ici et là. Disons que il faut pas surinterpréter ce que ça peut apporter, mais moi je pense que ce n'est pas inintéressant dans ce temps où il y a une véritable demande de participation à la décision publique, avec l'idée que du coup elle sera plus proche des citoyens et probablement plus efficace.
Dominique Régnier, vous êtes sceptique?
C'est-à-dire que les réunions publiques, on en pratique beaucoup, hein, et la caractéristique c'est que les gens ne viennent pas. Donc il y a vraiment une contradiction là aussi entre l'adhésion à ce discours et la pratique. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que tous les travaux qui sont faits à travers le monde démocratique documentent le fait que cette démocratie participative est beaucoup plus biaisée socialement que la démocratie représentative. Ils sont surreprésentés, ceux qui savent parler, ceux qui sont diplômés, etc. Ils écrasent tout le monde. Donc ça biaise énormément.
Même quand c'est tiré au sort, comme
ça. Le tirage au sort était un tirage au sort...
factice.
Non, pas du tout.
Non,
pas du tout.
Vrai.
Non,
vrai.
Non, ils ont profilé pour avoir vraiment des profits. Enfin, ils ont voulu avoir l'échantillon de la population française. Donc c'est pas du tout ce que je voulais dire. Au contraire, ça a été fait avec soin, mais il y a 9 mois de travail. Vous pouvez pas. Moi, je trouve que c'est une expérience passionnante. Bien sûr. Mais ça peut pas être modalité de gouvernement. En tout cas, je le crois. Et je trouve très problématique. Je termine là-dessus. Oui. Je trouve très problématique de consacrer. De donner le sentiment de consacrer cette modalité quand il y a eu 60% d'abstention. On va finir par ne plus avoir de démocratie électorale dans un pays en crise. Je ne sais pas ce que ça produit à la fin. À mon avis, pas du bon.
Et dernier mot, Gilles Bronstein, un président qui vire au vert et qui pratique la démocratie participative, c'est celui qui a été élu en 2017, c'est le même ?
Non, pas du tout. Mais enfin, moi, j'ai quand même l'impression que... comment dire, qu'il fait de plus en plus ce qu'il veut, le président de la République, qu'il veut de moins en moins être embêté. Il a commencé jupitérien, puis avec les gilets jaunes, avec les retraites, il s'est dit, bah quand même, il faut que j'associe les régions, il faut que j'associe les corps intermédiaires. Mais encore une fois, on n'a pas d'informations, on verra ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'il se fait de plus en plus confiance, et qu'au fond de lui, il sait qu'il lui reste 1 an et demi, et comme tout le monde, il revient vers ses fondamentaux de dire, j'ai eu raison contre tout le monde pour être élu, eh bien, j'aurai encore raison contre tout le monde pour être réélu.
Allez, dans un instant, nous jetterons un œil, un regard sur un épisode politique un peu à l'ancienne. 20h50 sur France Info, le Fil Info avec Emmanuel Langlois.
La santé, le grand âge, les jeunes. Dans un entretien à la presse régionale publié demain matin, Emmanuel Macron annonce ses priorités post-Covid, en particulier de dessiner, dit-il, un nouveau chemin autour de la reconstruction économique, sociale et environnementale de la France. Le chef de l'État qui appelle aussi à se préparer à une rentrée économique très dure. À propos des retraites, Emmanuel Macron veut, dit-il, remettre en chantier la réforme, mais transformer. Il demande la reprise des négociations avec les partenaires sociaux dès cet été. La politique encore, après les municipales, il faut que ça change, mais en gardant Édouard Philippe. Voilà en substance le résultat de l'étude menée par Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Dans le détail, 3 Français sur 4 réclament une inflexion de la politique gouvernementale, mais près de 3 sur 5 estiment que l'actuel Premier ministre doit rester à Matignon. Les suites du scandale dans la police de Seine-Saint-Denis, 4 policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention, la CSI, au cœur de l'enquête du département, ont été mis en examen pour faux usage de faux en écriture publique. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Une cache de drogue a été découverte lors de perquisitions aujourd'hui. Le service mis en cause va être dissous. Un rapport commandé par le ministère de la Culture estime, lui, à 22 milliards d'euros les pertes du secteur en France cette année pour cause de confinement, soit une baisse d'un quart du chiffre d'affaires global par rapport à 2019. Enfin, ce sera la première foire parisienne à reprendre depuis la fin du confinement. L'ouverture de la foire des Tuileries est prévue après-demain, samedi. La fête foraine aurait normalement dû commencer le 19 juin. D'après son organisateur, l'inénarrable Marcel Campion, elle accueille 800 000 visiteurs en moyenne en temps normal et comptera 60 manèges, autant que d'habitude.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Jean-François Aquili.
Nous nous attendions à un duel de dames à Marseille au troisième tour, hein, celui qui désigne le maire. Eh bien, il n'aura pas lieu. Martine Vassal, la candidate des Républicains, s'est retirée. Elle est face, vous le savez, à Michel Rubirola, est à la tête du printemps marseillais, la candidate de la gauche marseillaise. Eh bien, Martine Vassal s'est retirée au profit du député Guy Tessier, 75 ans, pour jouer la carte du doyen d'âge. Écoutez, regardez cette séquence assez surréaliste.
Il faut regarder l'évidence. Lorsqu'il y a égalité de voix, eh bien c'est la personne qui arrive devant au niveau de l'âge qui est élue. Et aujourd'hui, j'ai fait un choix. J'ai fait le choix de la sagesse, j'ai fait le choix de l'expérience, j'ai fait le choix du consensus, j'ai fait le choix du respect. Et aussi du respect de la parole donnée, ça c'est très important, et du respect de l'union. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter Guy Tessier samedi matin à l'élection du maire de Marseille.
Alors, pour la petite histoire, il y a un nouveau candidat à droite, hein, c'est Lionel Royer-Perrault qui annonce sa candidature sur Facebook, et c'est Christian Jacob, hein, le patron des Républicains, qui appelle tout le monde à droite, chez LR, à la responsabilité. Clé Morin, d'abord, pour commencer par vous, extraordinaire séquence, hein. Un peu à l'ancienne quand même. Hein.
Oui, bah, ça prolonge ce qu'on vient de dire à l'instant. En fait, quand on regarde ça, on se dit que il n'y a rien de mieux pour dégoûter les gens d'aller voter. Ça fait très, je sais même pas quoi vous dire. Ouais. On vote pour un candidat. Alors certes, c'est une tête de liste. Donc il y a une liste derrière et on se dit bien que ceux qui sont derrière dans la liste vont pouvoir, mais quand même, c'est étrange de se voir les uns et les autres passer le ballon. D'ailleurs, j'ai l'impression que à gauche, c'est possible aussi qu'il se passe entre la tête de liste pour des raisons de relation avec Samia Ghali. Bon,
Gilles Bronstein, c'est presque saison 3 hein, de Marseille sur Netflix. Hein.
Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est absolument pathétique. Parce que Guy Tessier, outre d'être le doyen d'âge, il a une caractéristique, c'est qu'il a commencé sa carrière à l'extrême droite, qu'il est encore très droitier et qu'on sait que c'est le plus à même de recueillir les voix de Stéphane Ravier du Rassemblement National et qui n'est pas un Rassemblement National tiède. Hein, c'est un Jean-Marie, c'est un proche de Jean-Marie Le Pen, Stéphane Ravier, donc le plus à même de recueillir les voix de Stéphane Ravier. Donc très clairement, la droite marseillaise, pas parisienne, la droite marseillaise veut, est prête pour garder la mairie à le faire avec les voix du Rassemblement National. Évidemment, la droite parisienne qui se rend compte que ça serait absolument une déflagration est contre, et c'est vrai que j'ai eu l'entourage de Christian Jacob tout à l'heure qui dit on ne va pas laisser faire, j'ai eu d'autres responsables républicains qui sont absolument catastrophés par ce qui se passe, mais bon, désormais, on est à l'abri de rien, et c'est vrai que c'est pathétique.
Dominique Régnier, vous vous rappelez quand nous évoquions pendant le confinement ce monde d'après, nous étions tous confinés,
très angoissés, pas là.
Et les uns les autres disaient plus jamais comme avant, tout va changer. Vous étiez très sceptique à l'époque. Hein, voilà, on a typiquement un épisode de la vie d'avant.
Non, c'est vrai, ce sont des choses qui sont vraiment absolument désastreuses. Ça a été dit en termes d'image, c'est désastreux. Voilà, vraiment désastreux, c'est triste. Il y a un petit effet Atmosphère régionale, je veux dire locale, c'est-à-dire que je vais mélanger de régions, mais enfin il y a quand même Béziers, Perpignan, Marseille. C'est-à-dire, il y a une sensibilité à l'union des droites qui est quand même en train de se réaliser ce truc-là. Louis Alliot a beaucoup mis en avant le fait qu'il avait fait tomber, dit-il, le mur républicain du Front républicain. Donc ça aussi, c'est un peu, c'est aussi possible de dire que il faut y voir. Une décentralisation de la politique, de fait, l'État est en retard. Moi, je pense vraiment ça. L'État est en retard. Il a perdu le contrôle de ses bases. Et les partis politiques qui ne peuvent pas les retenir, eh bien voilà, sont aujourd'hui en mesure de se retrouver devant ce genre de difficultés. On pourrait ajouter la remarque suivante. Oui. Plus d'électeurs participants rendaient ce scénario plus compliqué parce que, quand même, la pression est plus forte.
Allez, on va conclure. Hein. Nous allons conclure ces informés de France Info. Alors vous, Françoise Benhamou, c'est plutôt Aix-en-Provence que Marseille. Vous évitez de commenter les aventures.
Oh, mais Marseille mérite mieux quand même.
Marseille mérite mieux. Oui. Agir face au dérèglement du monde, on va s'en sortir. Donc c'est l'intitulé de ces rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Je vais vous laisser faire un petit peu le pitch, voilà. Comme on dit. Ça commence demain.
Ça commence demain avec une rencontre des think tanks. Ça continue pendant 3 jours avec 300 intervenants, avec vraiment des intervenants de très grande qualité. La possibilité d'intervenir dans le cours des débats par des questions pour le public. Et vraiment, je crois que c'est un moment important pour essayer de construire justement quelques propositions fortes et cohérentes.
Ah, c'est sur franceinfo.fr et donc on va dire en direct. Hein.
En direct, oui, la maison de la radio nous accueille.
Et vous allez essayer, le cercle des économistes avec France Info, de nous dire à quoi peut ressembler ce monde de demain. Voilà, c'est donc la fin de ces informés de France Info, merci. Merci à vous, Françoise Benhamou, Dominique Régnier, Chloé Morin et Gilles Bornstein d'avoir participé à cette émission. Et puis, on va attendre patiemment ce petit remaniement, n'est-ce pas ? On y est presque. Allez, merci. Bonne soirée à tous.